Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 31 mai 1879, les Zoulous tuent le prince impérial. Fin juillet 1870, Louis, prince impérial de France, fils de Napoléon III, part avec son père rejoindre les armées, tout fier de son uniforme de sous-lieutenant. À Sarrebruck, il assiste pour la première fois à un engagement et croit à la victoire. Puis les défaites se succèdent. Wissembourg, Forbach, Reichshofen, il voit les généraux soucieux, l'empereur souffrant, les soldats épuisés, sales, sans armes, les blessés gémissant le long des routes. À Namur, Louis apprend la défaite de Sedan du 2 septembre, la captivité de son père, la fuite de l'impératrice Eugénie devant l'émeute parisienne menaçante. Le 6 septembre, il débarque en Angleterre à Douvres. Il séjourne tout d'abord à Hastings, petite plage très middle class, fréquentée par de nombreux londoniens. Deux jours plus tard, il retrouve sa mère. Fin septembre, l'impératrice s'installe avec son fils dans une propriété du Kent, Camden Place, mise à la disposition par un agent d'affaires familier de Napoléon III. Une petite cour se reforme. Emprisonné à Wilmshaw, l'empereur écrit « Il faut que Louis continue ses études. » Son précepteur, Augustin Filon, rassemble alors quelques ouvrages scolaires. Au rez-de-chaussée de la résidence, un salon est affecté au prince pour y travailler. En janvier 1871, l'armistice est pour Louis un soulagement. Le retour de son père le rassérène. Le jeune prince de 15 ans retrouve son entrain. Napoléon III l'initie à la politique. Il lui confie ses plus secrètes pensées. Des bonapartistes viennent à Camden Place, à Chillhurst. Napoléon III prépare son retour de l'île d'Elbe. Tout est prévu à cette fin. Un ministère constitué, un plan stratégique établi, gagné Ostende, puis la Suisse et Lyon, où le général Bourbaki, commandant de la place, donnerait des troupes pour marcher sur Paris. Étudiant à l'école militaire de Woolwich, depuis novembre 1872, Louis affirme qu'il terminera ses études à Saint-Cyr. Dans quelques mois, l'Empire sera restauré en France. Il en est intimement persuadé. Mais le décès de Napoléon III au début de l'année 1873 change la donne. Le 13 janvier, le prince impérial mène le deuil d'un père qu'il a tant aimé. En France, les ennemis de l'Empire se réjouissent. Le gamin de Woolwich, comme l'appelle Léon Gambetta, n'est pas de taille à susciter des difficultés sérieuses. Un instant atterrés, les bonapartistes se reprennent rapidement. En 1874, près de 8000 Français traversent la Manche pour le 18e anniversaire du prince impérial. Des Français de toutes conditions. Tout le monde rit et chante. Quand Louis prend la parole, un silence extraordinaire se fait. Lorsqu'il prononce d'une voix ferme, le plébiscite, c'est le salut et c'est le droit, une émotion intense s'empare des auditeurs. Elle se manifeste dans un interminable cri de « Vive l'empereur !». De retour dans leur foyer, les délégués relatent leur rencontre avec le prince impérial, dont les photographies sont diffusées par milliers. La légende napoléonienne s'incarne désormais dans le petit empereur. À Woolwich, Louis travaille avec acharnement. Il impose le respect par sa science de l'équitation. À l'escrime, il n'a pas de rival. Aux examens de sortie, il se classe 7e, rend fort honorable pour un étranger. En France, les bonapartistes tiennent une place centrale dans le jeu politique. Ils sont fortement représentés à la Chambre des députés. Les royalistes sont désormais écartés en raison du refus du drapeau tricolore par le comte de Chambord. Selon les Républicains, seuls les Républicains s'opposent à la restauration du régime impérial. Louis étudie les sciences économiques et le droit. Il s'entretient régulièrement avec les nombreux Français qui viennent le visiter à Camden Place ou dans sa résidence estivale d'Arenberg en Suisse. des gens du monde, des écrivains, des prélats viennent lui apporter l'écho du sentiment des Français. Il les questionne et les écoute attentivement. Rien ne l'empêche de se rendre à Paris si ce n'est sa fierté. « Je ne rentrerai qu'en empereur », clame-t-il. En Angleterre, Louis sort peu dans le monde. Sa situation personnelle lui impose une certaine réserve. Pourtant, il est beaucoup sollicité. Son charme accru du prestige napoléonien agit toujours. Le public anglais, toujours romanesque, croit qu'une idylle est née entre Louis et Béatrice, fille de la reine Victoria. Ils sont souvent vus ensemble. À vrai dire, le prince impérial, au grand désespoir de sa mère, ne songe pas au mariage. Il n'a au cœur qu'une seule et unique passion, la France, qu'il rêve de reconquérir. Mais la situation paraît bloquée. Pas de solution parlementaire, rien n'a tenté avant le terme du septennat de Patrice de MacMahon en 1880. L'atmosphère de Camden Place est morose. À la tutelle maternelle lourde, à un garçon de 20 ans s'ajoute la tutelle politique des chefs du parti bonapartiste qui veulent imposer leur expérience d'aîné. L'idée de s'évader gagne vite l'esprit du prince impérial. Partir, briser ses entraves, se faire connaître des Français par des actions d'éclat, attester qu'il est le digne héritier de son père et de son grand-oncle, tel est son projet. Le 15 février 1879 arrive à Londres la nouvelle du désastre de l'armée anglaise au Zululand. Louis adresse une demande au ministre de la guerre. Il souhaite combattre avec les Anglais, avec ses camarades de l'académie militaire de Woolwich. Stupéfaite et désolée, l'impératrice Eugénie tente de le dissuader. Après quelques résistances du cabinet anglais, le prince impérial obtient de partir en qualité de témoin. À Capton, après un mois de traversée, Louis est accueilli au cri de « Vive Napoléon, vive la France !» À Durban, où il débarque en uniforme salué par le canon des citadelles, le lieutenant Louis-Napoléon se présente au général en chef Lord Chelmsford avec la lettre du ministre de la guerre ainsi libellée. « Le gouvernement m'autorise à vous écrire pour vous prier de témoigner au prince de la bienveillance » et de lui prêter assistance pour qu'il puisse suivre les opérations avec les colonnes d'expédition. Louis suit donc l'état-major. Chaque jour, les Zoulous sont plus proches. Il a hâte de rencontrer ses guerriers farouches. Le 31 mai 1879, le lieutenant Carey écrit à son épouse « Le prince et moi, nous devons aller choisir un camp à 10 miles dans le Zululand ». Au moment de partir, Louis déchire une feuille de son calepin et trace ces quelques mots. « Ma chère maman, je pars dans quelques minutes. Je ne sais quand je pourrai vous donner de mes nouvelles. Je n'ai pas voulu perdre cette occasion de vous embrasser de tout mon cœur. » Puis il rejoint le groupe de cavaliers, 6 hommes, plus un autochtone, qui sert de guide. Arrivé à un kraal, un village zoulou, la petite troupe fait halte. Vers 16 heures, l'autochtone annonce « Les herbes bougent. Presque aussitôt, des coups de feu claquent. Les cavaliers anglais s'enfuient, les chevaux s'affolent, gênés par les hautes herbes. Louis court à côté du sien dans l'espoir de le saisir. Il réussit à accrocher les fontes, mais la courroie lâche. Le prince impérial est maintenant à terre, libéré, son cheval file au grand galop, Louis se relève. Il est seul, entouré d'une vingtaine de Zoulous. De la main gauche, il tire 3 coups. Déjà, une sagaie lui transperce la cuisse. Il l'arrache et la relance sur l'ennemi. Une autre lui traverse l'épaule gauche. Louis s'écroule en sang. Les Zoulous s'acharnent sur lui. Puis le cadavre est dépouillé de ses vêtements. Autour du cou, cependant, reste en évidence une chaîne à laquelle est suspendu un médaillon. Toute la nuit, le corps nu demeure sur le sol piétiné. Le lendemain matin, un détachement est envoyé à la recherche du cadavre. Le corps portant 17 blessures est ramené au camp. Des soldats fabriquent un cercueil avec des caisses de thé. Dans un wagon traîné par des mules, la dépouille du prince impérial gagne Durban, où elle embarque sur un navire de guerre. Le 11 juillet 1879, le corps de Louis revient à Camden Place, où se déroulent d'imposantes funérailles. Les cadets de Woolwich lui rendent les honneurs. La reine Victoria dépose sur la bière une couronne de laurier. L'impératrice Eugénie fait élever à Farnborough une église et un monastère. Des moines veillent désormais sur les sépultures de Napoléon III et de son fils unique. En Afrique du Sud, à Itiotiasi, la reine Victoria fait construire un mémorial, une croix dressée au-dessus d'un cairn. Des arbres plantés par les Zoulous ombragent l'endroit où le prince impérial a trouvé la mort. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire qui a été préparée par Emmanuel. C'est Renaud qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1980, extrait de son album Marche à l'ombre, dans mon HLM.
Dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instit, y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club. Comme toutes les décolorées, elle a sa mini Cooper, elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express. C'est vous dire si elle lit. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième, le HLM. Au quatrième, dans mon HLM, y'a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, y'a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM, la montre du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du 8e, le HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la monde du 8e, le HLM.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres. Nous commençons par Monsieur M de Nadjwa Barakat aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad, l'Orient des livres. Nous voilà plongés dans Beyrouth et plus exactement dans ses bas-fonds. Un écrivain, Monsieur N, vit reclus dans une chambre d'hôtel. Tout écrit provoque en plus une insurmontable aversion et il consigne mot après mot péniblement le récit décousu de sa vie. Tout aussi décousu, à commencer par son enfance malheureuse. Il ne trouve d'autre remède à son dégoût existentiel que de déambuler dans les bas-fonds de Beyrouth pour provoquer voyous et marginaux et se faire tabasser. Et c'est dans l'un de ces quartiers malfamés qu'il tombe sur Lockman, un ancien seigneur de la guerre reconverti en patron de cybercafé. Il le fuit d'abord, paniqué à l'idée d'être reconnu, puis revient comme aimanté sur les lieux où il sait le retrouver. Un thriller psychologique mettant en lumière la violence de la corruption qui ronge le Liban depuis des décennies. Monsieur N de Nadjwa Barakat, c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad, l'Orient des livres. Elena Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse de Salomon Balka aux éditions Écriture. Elena Ferrante, c'est l'auteur entre autres de 4 romans napolitains publiés sous le titre générique de l'amie prodigieuse, adaptés ensuite en série télévisée. Ils ont fait sensation, remportant un succès considérable en Italie, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Pourtant, ces livres traduits en 42 langues et vendus à plus de 5 millions d'exemplaires n'ont donné lieu à aucune interview filmée, ni aucune séance de dédicace. L'autrice a choisi de rester dans l'ombre. S'agit-il du pseudonyme d'un auteur célèbre ou d'un auteur refusant la notoriété ? Salomon Malka est parti à sa recherche et tente de lever le voile. C'est donc une enquête sur la personnalité d'un auteur qui nous est livrée ainsi. Elena Ferrante à la recherche de l'amie prodigieuse de Salomon Malka, c'est aux éditions Écriture. Et nous terminons cette chronique par Bella Ciao de Raffaella Romagnolo aux éditions Albin Michel. En mars 1946, dans une luxueuse voiture avec chauffeur, Mrs. Julia Masca revient dans son petit village du Piémont. Des années plus tôt, seule, enceinte et sans le sou, elle quittait la filature où elle travaillait depuis l'enfance et s'embarquait sur un paquebot à destination de New York. Sans un mot d'explication pour Anita, sa meilleure amie, ni pour Pietro, son fiancé. L'Amérique allait lui donner sa chance et la soulager d'un secret trop lourd à porter, mais l'Italie qu'elle retrouve à traverser la guerre, vécu le fascisme et la guerre des partisans. Elle s'y retrouve étrangère parmi les siens, mais tente de se réconcilier avec son passé. C'est l'Italie de l'après-guerre qui nous est ici retracée. Bella Ciao de Raffaella Romagnolo, c'est publié aux éditions Albin Michel. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission. Nous nous séparons en chanson avec toujours Renaud. L'un de ses premiers succès, c'est en 1977 dans l'album Laisse-Béton. Nous écoutons le titre éponyme.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. D'un blouson mecton, les babidons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. M'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.